RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, retour aujourd'hui sur l'indépendance du Biafra, proclamée il y a 50 ans. Cette éphémère république dans l'est du Nigeria va alors connaître la guerre et la famine, une catastrophe humanitaire qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Mais au départ, en mai 1967, la sécession est un grand espoir pour beaucoup d'Igbo qui obtiennent ainsi leur propre foyer national. À Lagos, la capitale nigériane de l'époque, le gouvernement fédéral militaire ne l'entend pas de la même oreille, bien sûr, et pour mater la région rebelle, le Nigeria fait appel à la Grande-Bretagne, l'ex-puissance coloniale. Le Biafra, lui, demande l'aide de la France. Michel Arsenault a parcouru des archives françaises et obtenu la déclassification de quelques documents qui font comprendre l'ampleur, mais aussi les limites du soutien français. Indépendance du Biafra, les guerriers de l'ombre, voici son grand reportage.
L'hymne national du Biafra a beau célébrer le soleil levant et les grands héros, il est triste comme un chant d'adieu. Un exode est à l'origine de la sécession du Biafra. En 1966, 30 000 personnes, des Igbo, sont massacrées dans la région du Nord, la plus grande du Nigeria. Ces violences provoquent la fuite de centaines de milliers d'autres. Les survivants vont se réfugier, se replier dans la région de l'Est, où les Igbo sont déjà majoritaires. Cet afflux poussera le colonel Ojukwu, futur homme fort du Biafra, à proclamer l'indépendance. En mai 1967, le pays Igbo devient un pays tout court. Pour le Nigeria, c'est une intolérable atteinte à sa souveraineté. Il n'a aucune intention de se laisser dépecer. Quand les forces du gouvernement fédéral militaire traversent la frontière de la République autoproclamée, c'est la guerre. Pour Enugu, la capitale du Biafra, l'enjeu est colossal. Il y va de sa survie. C'est la mobilisation générale. Le petit Biafra affrontera le grand Nigeria. Lagos est soutenu par la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Enugu, de son côté, compte sur la France du général de Gaulle, déterminé à affaiblir le géant anglophone de l'Afrique de l'Ouest.
La France, dans cette affaire, a aidé, aide le Biafra dans la mesure des possibilités. Elle n'a pas accompli l'acte qui pour elle serait décisif, l'acte de la reconnaissance de la République biafraise. Parce qu'elle pense que la gestation de l'Afrique est avant tout l'affaire des Africains.
Des armes françaises parviendront au Biafra avant même l'indépendance. Ces livraisons se poursuivront avec des hauts et des bas, quasiment jusqu'à la fin de la guerre, en janvier 1970. C'est du moins ce qui ressort des archives françaises. Joël Calmette, un réalisateur de films documentaires, prépare une thèse sur la guerre du Biafra.
Alors quand on dit la France a armé la sécession, c'est vrai et c'est faux. Quand on parle de la France, on a l'impression que la France est une pyramide avec à sa tête un chef d'État qui décide, qui fait qu'à la fin les armes arrivent au Biafra. C'est pas comme ça que ça a fonctionné du tout. Les Biafrais avaient pas mal d'argent, ont commencé à préparer la sécession et à s'armer à peu près 10 mois avant de proclamer leur indépendance, c'est-à-dire l'été 1966, en envoyant des émissaires en Europe acheter des armes et en trouvant un point d'appui important au Portugal, chez le dictateur Salazar. Et donc au Portugal viennent des trafiquants, vendeurs d'armes, ou pilotes mercenaires, ou trafiquants d'avions. Et c'est du Portugal qu'ils vont commencer à prendre des contacts avec le Biafra. Parmi eux, plusieurs Français. Pierre Laurès notamment, compagnon de la Libération. Et ces gens-là, certains sont un peu contrôlés par les services français, par le SDEC à l'époque, l'ancêtre de la DGSE. D'autres sont des freelances, des trafiquants d'armes sans foi ni loi.
Après les marchands de canons, les hommes de l'Élysée organisent à leur tour des livraisons d'armes. Elles seront même coordonnées par sa cellule Afrique que dirige Jacques Foccart. Aux fusils saisis à l'armée allemande, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, succéderont des canons et des obus. Sans oublier les avions. Une note du ministère des Affaires étrangères, déclassifiée à la demande de RFI, précise que Paris avait envoyé au Biafra libre, dans les mois qui ont suivi la proclamation de l'indépendance, deux bombardiers. Dans une note, Philippe Le Théron, un adjoint de Jacques Foccart à l'Élysée, regrette que les livraisons d'armes ne soient pas plus importantes encore.
Nos vols d'approvisionnement ont pu continuer à peu près normalement, malgré les bombardements de la piste d'atterrissage. Et la capacité de transport a sensiblement augmenté par suite de la mise en service de notre DC-4. Le DC-4 s'est posé presque chaque nuit, ainsi que deux DC-3 en bien, pilotés par des Biafrais. Nous avons donc acheminé par notre propre voie environ 75 tonnes d'approvisionnement de guerre en 11 jours. Mis à part deux envois de Mauser et de Thompson que nous avons acheminés, 2000 armes et deux canons, l'ensemble du tonnage était constitué par des munitions et aucune des armes spéciales demandées par HE, DCA, canon sans recul, matériel radio, n'a pu être fournie en nombre suffisant.
HE, c'est His Excellency, son Excellence, le numéro 1 biafrais, le colonel Ojukwu. L'énigmatique chef d'État sait se montrer tantôt séducteur, tantôt arrogant. Ses sautes d'humeur poussent certains diplomates à s'interroger sur son équilibre mental. Cet amateur de Shakespeare, dira l'un d'eux, est aussi tourmenté qu'un Hamlet africain. L'officier fera une toute autre impression à Marc Barbet, l'ambassadeur de France au Nigeria. C'est du moins ce qui ressort du Telex qu'il rédige après l'avoir rencontré à Enugu.
Lagos, le 9 mars 1967. Le colonel Ojukwu m'a reçu longuement. Souriant et détendu, il ne ressemblait en rien au tableau tracé par mes collègues qui me l'avaient représenté comme sensibilisé à l'extrême, crispé et imperméable à toute argumentation. Il passe pour très fin et intelligent. Le colonel Ojukwu a dit qu'il partageait le sentiment d'admiration et de respect qu'inspire la personnalité du général de Gaulle, sûrement le plus grand des hommes d'État vivants. Signé Barbet.
De Gaulle, en Afrique de l'Ouest, compte sur le président de la Côte d'Ivoire. Oufouette Boigny est scandalisé par la violence du conflit au Biafra et le blocus que le Nigeria impose à sa région de l'Est. Un blocus qui l'empêche d'exporter son pétrole, mais également d'importer des armes et de la nourriture.
Si je romps aujourd'hui ce silence volontaire, c'est parce que je veux saisir l'occasion pour crier mon indignation devant l'indifférence inexplicable, l'indifférence coupable du monde entier à l'égard des massacres dont le Biafra est le théâtre depuis plus de 10 mois. Sait-on qu'il y a au Biafra en 10 mois plus de morts qu'en 3 ans au Vietnam?
En ces temps de guerre froide, Oufouette Boigny craint l'influence de l'islam. Il redoute l'émergence au Nigeria d'une région Haoussa, dont les sympathies iraient à l'URSS. Dans un télégramme, l'ambassadeur de France à Abidjan explique sa position.
Abidjan, le 11 juillet 1969. La Côte d'Ivoire a pris dans l'affaire du Biafra, qui tient tellement à cœur à M. Oufouette Boigny, la position que l'on sait. Elle est convaincue qu'elle s'oppose à l'hégémonie islamique, fourrier des communistes, qu'ils soient russes ou chinois. Signé Raphaël Lègue.
Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire.
Vu les convictions d'Oufouette Boigny, Abidjan ne va pas rester les bras croisés.
De reconnaître le Biafra comme État souverain et indépendant.
Le poids d'Oufouette Boigny est très important, mais Oufouette Boigny est également conseillé par des Français.
Joël Calmette.
Ses principaux conseillers sont des Français. Houphouët Boigny, évidemment, est un grand président africain autonome qui a été ministre d'État en France, qui a été ministre d'État de De Gaulle. Ils se connaissent très très bien, De Gaulle et Houphouët Boigny. Et Houphouët Boigny est très respecté par De Gaulle. De Gaulle va donner un grand crédit aux prises de position de Houphouët Boigny. Houphouët Boigny est convaincu qu'il faut soutenir le Biafra parce qu'il veut affaiblir le Nigeria qui l'inquiète depuis plusieurs années. Mais il est renforcé dans ses convictions, évidemment, par ses conseillers, notamment par Jean-Maurice Chaubeaupré, qui l'encourage dans cette fragilisation du Nigeria.
La Côte d'Ivoire, suivie du Gabon, de la Tanzanie et de la Zambie, reconnaîtront le Biafra. La Côte d'Ivoire, le Gabon, serviront même de plaque tournante dans le trafic d'armes françaises vers la Nouvelle République. La plupart des pays africains soutiendront toutefois le Nigeria, soit parce qu'ils craignent de voir des mouvements indépendantistes contester leurs propres frontières, soit par solidarité islamique, car beaucoup d'entre eux perçoivent le Nigeria comme un pays musulman. Le général Gowon, l'homme fort de Lagos, est certes chrétien, mais il est originaire du Nord, une région musulmane. Leur soutien n'est pas uniquement diplomatique. L'Égypte fournira au Nigeria des pilotes, la Libye des armes, le Soudan des avions de combat. En apparence religieuse, cette solidarité est aussi commerciale, car ces pays arabes ont été colonisés par le Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'ils ont des armements britanniques à revendre, des armes que les militaires nigérians connaissent bien. Il ne suffit pas toutefois d'avoir un fusil pour faire le coup de feu, comme le constate l'ambassadeur de France à Lagos.
Lagos, le 9 février 1968. Il ne suffit pas de disposer d'effectifs qui augmentent régulièrement. Encore faut-il que les troupes aient du mordant. Et tel ne paraît pas être toujours le cas. Alors que les Igbos défendent leur existence même, nombre de soldats fédéraux s'estiment heureux d'être habillés et nourris et ne tiendraient pas, dit-on, à prendre des risques excessifs. Les bouteilles de bière circulent dès le matin et une tasse de thé traditionnelle mettrait fin à la journée de combat. Signé Barbet.
Les avions de chasse nigérians feront, eux, beaucoup de victimes, du moins selon l'ambassadeur de France au Gabon.
Libreville, le 4 octobre 1968. L'aviation fédérale fait du harcèlement, pour ne pas dire du terrorisme. Ses objectifs sont beaucoup plus civils, bâtiments publics, installations de la Croix-Rouge, que militaires. Et son action vise uniquement à abattre le moral de la population. Elle opère Libreville, le 19 octobre 1968. Il me revient de sources biafraises dignes de foi que l'aviation nigériane attaque chaque jour au napalm des villages biafrais dépourvus de tout intérêt militaire. Les victimes civiles seraient assez nombreuses. Signé Delaunay.
Maurice Delaunay, qui donne ces informations, est un intime de Jacques Foccart et pour la sécession biafraise.
Joël Calmette.
Contrôle le chef des mercenaires qui travaille au Biafra pour la France à un moment donné, Rolf Steiner. C'est lui qui le pilote, comme on dit. C'est lui qui s'occupe des livraisons d'armes françaises au Biafra depuis Libreville. C'est aussi lui qui a adopté une petite biafraise. Donc un personnage complexe, ambigu, où le sentiment se mêle à la stratégie. Il a intérêt, lui, vu la position qu'il occupe, à ce que les Nigérians soient vraiment les méchants. Il en est en partie convaincu, parce que toutes les informations qui viennent du terrain, c'est des gens qui sont victimes de la famine, qui sont victimes de l'encerclement, qui sont victimes des bombardements. Donc l'idée de génocide, qui est pourtant fausse historiquement, elle est crue par les gens qui reviennent du Biafra. Et lui, les voit à chaque descente d'avion.
S'il ne s'agit pas d'un projet génocidaire, le conflit et la famine provoqués par le blocus feront malgré tout des centaines de milliers de morts.
18 months ago, this war began. A civil war with all the destruction, suffering and hardship it entails. A total war bringing misery and death in its wake.
Dans sa propagande, le Comité international de la Croix-Rouge insiste sur ses livraisons de riz et de poissons séchés.
From Santa Isabel, the island capital, its airlift reaches out above the war-torn land to Biafra. Every day, every night, a shuttle service of lorries operates, carrying food and medical supplies from the port to the depot and from the depot to the airport to the waiting aircraft.
Mais le Nigeria soupçonne le CICR de livrer des armes au Biafra. Quand la chasse nigériane abat un appareil de la Croix-Rouge en plein vol, le pont aérien humanitaire s'arrête du jour au lendemain. Comme le rapporte l'ambassadeur de France à Lagos, les conséquences de la famine sont tragiques.
Lagos, le 8 juillet 1968. Les gens meurent de faim par milliers. Le banditisme s'installe. Le cannibalisme a fait son apparition. Les haines ancestrales qui opposent les clans alimentent les désordres. Les équipes de la Croix-Rouge n'arrivent pas à conserver le contrôle de leurs véhicules, qui passent de main en main et servent au transport des armes et des troupes. Les rebelles, souvent dépourvus d'uniformes, s'emparent de ceux des fédéraux. Et du respect des conventions de Genève, il n'est évidemment pas question. Signé Barbet.
Pour la première fois, des télévisions occidentales montrent, sans retenue aucune, des enfants squelettiques au ventre ballonné. Les images accréditent l'idée que les Igbos sont victimes d'un génocide. Les autorités biafraises y sont pour quelque chose, elles qui ont recruté des consultants en communication, tant à New York qu'à Genève. Dans plusieurs pays occidentaux, l'opinion est bouleversée par ces petites victimes.
C'est la victime exemplaire, l'enfant. C'est l'innocence même attaquée par le mal.
Joël Calmette.
Et donc, c'est les images des enfants qui ont été montrées beaucoup. Au final, ce qui est étonnant, c'est la non-dissociation entre l'humanitaire, les trafiquants d'armes, les pilotes. Tous avaient l'impression de faire de l'humanitaire. Tous avaient l'impression d'aider les Biafrais. Les pilotes mercenaires qui apportaient des armes au Biafra, la nuit, au risque de leur vie, ils étaient très bien payés, mais au risque de leur vie. Les pilotes, vous disiez, l'humanitaire, c'est bien de nourrir les gens, c'est bien de soigner les enfants. Mais s'ils ne peuvent pas vivre, à quoi ça va servir? Donc moi, je leur apporte en amont ce qu'il faut pour qu'ils survivent, des armes. Donc tout ça est très étonnant. Le bien et le mal se mélangeaient totalement parce que tout le monde est devenu militant du Biafra. À cause des enfants, à cause de cette idée de génocide qui n'a pas eu lieu, puisque les Biafrais, quand ils n'ont pas lieu, n'ont pas été tués.
C'est la 7e symphonie de Beethoven que Radio Biafra interrompra le 12 janvier 1970 pour annoncer que le général Ojukwu s'est enfui en Côte d'Ivoire. La radio, désormais aux mains de Lagos, donne la parole à un jeune officier nigérian, le colonel Obasanjo. La guerre est terminée, déclare le futur président du Nigeria. Au lieu d'affaiblir le Nigeria, ce géant anglophone, la France, en livrant des armes au Biafra, n'a-t-elle fait que diviser l'Afrique francophone? Pour De Gaulle, les armements français n'avaient pas pour objectif de permettre à Enugu de triompher sur le champ de bataille, mais de peser à la table des négociations. Le président français lui-même déclarait que seule une solution politique pouvait résoudre le conflit. Sauf qu'aucune médiation n'est jamais parvenue à réconcilier les belligérants, et c'est bien une victoire militaire que le Nigeria a remportée sur le réduit Biafra, comme on disait alors à Paris. La question qui se pose dès lors est plus accablante pour la France. En envoyant des armes au Biafra, Paris n'a-t-il fait que prolonger l'agonie d'une sécession vouée à l'échec? Les guerriers de l'ombre, un grand reportage de Michel Arsenault, une réalisation de Sandrine Straram. RFI.